Voilà, alors donc on va continuer notre chapitre 5, 4 de la lettre du pape Maurice Laetitia. Vous m'entendez suffisamment? Je parle assez fort, ça va? Sinon, il faut me secouer. Donc là, je vais vous parler rapidement, je vais très rapidement du mariage et virginité. C'est au numéro 158. À 161. Le pape nous dit que la virginité est une manière d'aimer. Comme signe, elle nous rappelle l'urgence du royaume, l'urgence de se mettre au service de l'évangélisation sans réserve. Là, il y a une citation. On l'attribue à Peggy, je crois que c'est, oui, c'est ça. Et alors, je crois qu'il en parle à propos de dévots, mais on peut en parler quelquefois, on pourrait l'attribuer quelquefois, hélas, aux personnes consacrées. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être d'un des partis de l'homme, ils croient qu'ils sont du parti de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. C'est un peu sévère, hein? Mais je trouve que c'est une bonne une citation qui peut nous secouer un petit peu pour nous dire que l'essentiel, au bout du compte, c'est d'aimer dans notre vie, hein? Donc, si on s'engage dans la voie de la virginité, c'est pas pour avoir un cœur qui se rétrécit. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Mais au niveau du signe, comme en parle le pape, le signe est un peu différent de la vocation à la vie consacrée ou au mariage. J'aimais bien ce que disait le Raniero Cantalamessa, c'était en 2002, il disait ça quand il parlait au pape. Pour surmonter un peu cette opposition quelquefois qu'on fait entre la virginité et le mariage, c'est de voir que chacune a un service particulier à donner au corps qu'est l'Église. Et alors les personnes consacrées rappellent aux époux le primat de Dieu et de ceux qui ne passent pas. Et en revanche, les époux, les gens mariés, peuvent enseigner aux personnes consacrées dans la virginité, la générosité, l'oubli de soi, expérimenté dans le service de la vie et de la croissance des enfants. Une certaine humanité qui provient du contact direct avec les drames de la vie. Et je crois que ça, c'est vrai qu'on a. Les personnes consacrées ont beaucoup à apprendre des gens mariés. Hein. Je prenais quelquefois l'exemple d'une jeune fille qui voulait être religieuse. Je ne sais pas si elle se serait beaucoup levée la nuit pour prier en étant religieuse. Mais finalement, elle s'est mariée. Mais quand son enfant braillait la nuit, ben elle se levait pour... Et quelque part, dans cette voie, je crois que c'était plus sa voie finalement, ben le bon Dieu l'a stimulée à se donner davantage, à ouvrir davantage son cœur. Ben, c'était beaucoup mieux comme ça. Voilà. Alors voilà ce que dit le pape au numéro 162. Le célibat court le risque d'être une solitude confortable qui donne la liberté de se mouvoir avec autonomie pour changer de lieu, de tâche et de choix, pour disposer de son argent personnel, pour fréquenter des personnes variées selon l'attrait du moment. Alors ça, c'est des célibataires tout court, mais ça peut être, hélas, quelquefois des personnes consacrées. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté pour des jeunes couples, quelquefois, quand on a tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre, donc de vouloir les avantages de la vie commune. C'est quand même plus sympathique que de se retrouver tout seul devant son assiette le soir, donc d'avoir quelqu'un, c'est bien. Mais en même temps, on voudrait garder son autonomie, et puis voilà. Mais à un certain moment, il faut faire des choix. Mais on a quelquefois du mal à faire le choix de l'un ou de l'autre. Et après, à partir du numéro 163, 163 et 164, le pape parle de la transformation de l'amour. On l'a un tout petit peu évoqué ce matin, mais le fait que entre l'amour que des jeunes amoureux peuvent avoir et l'amour de gens qui ont 60 ans de mariage, c'est pas la même chose, ça évolue. Alors, après, il y en a qui distinguent différentes étapes de diverses manières. Il y en a qui disent, bon, il y a quatre saisons de l'amour. Il y a l'été fusionnel au début, alors voilà. Alors là, on idéalise beaucoup les choses pendant cette période-là. On a du mal à vivre l'un sans l'autre, etc. Bon, ça, c'est l'été fusionnel. Après, il y a le discernement automnal. Alors, je vous lis, ça sera mieux dit que ce que je peux dire. Après le bain de soleil bucolique de l'été, le couple doit faire face à un automne plus morose. Tels les effets d'une drogue qui s'estompe, chacun retrouve progressivement raison et objectivité. La véritable personnalité de l'autre jaillit brutalement, entraînant questionnement et déception. Première dispute, sentiment de frustration, distance, etc. Voilà, alors du coup, après l'été, où on était sous un beau soleil, etc. Bon, voilà. C'est une période de turbulence, mais du coup qui impose justement de pouvoir dialoguer encore et d'apprendre le réalisme. L'autre ne peut jamais nous combler totalement. Mais en ayant toujours à l'esprit aussi que la réalité, c'est mieux que le rêve. Après l'automne, ben c'est l'hiver. Alors, l'hiver, stade de transformation et de silence glacial ou de vent cinglant. Oh là là. Alors, ça, c'est le temps de l'épreuve. Et où alors chacun est amené à se remettre en question lui-même. Et du coup, le couple n'est pas d'abord un refuge où on veut se cacher. Voilà, c'est aussi un lieu où on est stimulé pour changer, pour croître personnellement. Et qu'est-ce qui arrive après le printemps? Après l'hiver, le printemps, bien sûr. Lorsqu'un couple, après de nombreuses années de mariage et d'évolution, entre enfin dans cette phase, il vit une deuxième jeunesse. Voilà, alors les conjoints se connaissent l'un l'autre en profondeur dans leurs failles, leurs défauts, et ne cherchent pas à les combler par le partenaire. Au contraire, chacun voit le couple comme le lieu de croissance commun, dans la clairvoyance et la compréhension de l'un et de l'autre et de ce qu'ils vivent. Alors bon, juste pour souligner